rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, bonsoir. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Sainte Femme, Radio Zone. Comme tous les mercredis à partir de 18h30, c'est la pleine lune dans vos oreilles. Le ciel est gris, neige. On dirait qu'il va nous tomber sur la tête. Mais la pleine lune, elle est sur 93.8 MHz tous les mercredis. Au programme, dans quelques instants, les informels, les nouvelles de la pleine lune, suivies des coups de cœur de Marjolaine, si elle arrive à se dépêtrer de toute cette neige et si elle arrive jusqu'à nos studios. Restez à l'écoute sur 93.8 MHz. Je vous rappelle notre téléphone, le 450 40 51 41 0 59 depuis Genève et notre adresse, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Pour tout de suite, les informels. Radio Pleine Lune, Onde Femmes, Radio Zone, nos nouvelles. En France, le projet de la parité entre femmes et hommes dans la politique a du mal à passer la barrière du Sénat. Le projet de la parité joue donc au ping-pong entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Le Sénat a en effet refusé cette nouvelle loi qui stipulait que, je cite, « la loi détermine les conditions dans lesquelles l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives est assuré ». Du coup, les députés revotent le même projet et le renvoient au Sénat. Ça risque de durer un petit moment. Le Sénat qualifié de con par Roselyne Bachelot, députée RPR, ou de ringard par la gauche, proteste en déclarant que cette loi, je cite, « rabaisse les femmes au niveau des quotas laitiers » et met en doute bien sûr la compétence des femmes ainsi élues. Les sénateurs sont d'autant plus rassurés qu'ils ont trouvé un appui inespéré en la personne de la grande cochonne sexiste, Elisabeth Badinter, qui se dit philosophe, qui avec d'autres femmes soi-disant intellectuelles, s'élève contre ce projet de loi au nom de l'universalisme. Pour elle, la mention du sexe des candidats ouvre la porte au communalisme. Elles oublient en passant que les femmes ne sont pas une communauté, mais bien la moitié du monde, et que l'universel s'est toujours conjugué au masculin, par exemple. Rappelons que le suffrage universel était interdit aux femmes et que la Déclaration universelle des droits de l'homme ne tient pas compte des violences de tout ordre faites aux femmes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Europe a du mal à se mettre au quota. Et s'il y a dans quelques pays, surtout les pays scandinaves, une arrivée plus massive et plus large des femmes dans les instances politiques, c'est avant tout dû au lobby des féministes, à la pression que les groupes féministes ont pu faire. C'est le cas par exemple en Suède, où en 94, trois femmes ont décidé de faire en quelque sorte un espèce de chantage en menaçant de fonder un parti des femmes si les formations établies ne prenaient pas davantage en considération les questions qui les concernaient. Soumis à la menace d'une liste 100% féminine qui promettait de faire un tabac, les partis social-démocrates et verts en premier chef ont relevé le défi en offrant une place sur deux aux candidates, ce qui a bien sûr augmenté le nombre des femmes élues. La parité politique en Europe est affaire de lobby, rarement de choix législatifs. Seule la Belgique a adopté en 1994 une loi qui sera totalement effective à la fin du siècle et qui stipule qu'un maximum de 2/3 des candidats peuvent être du même sexe, c'est-à-dire qu'il faut en tout cas 30% de femmes, pourquoi pas 30% d'hommes, mais ça c'est encore un rêve. Dans le sud de l'Europe, l'Italie a tenté en 93 d'instaurer des quotas pour les élections locales, régionales, mais la Cour constitutionnelle a déclaré cela anticonstitutionnel. Et le Portugal vient également de déposer une loi similaire. C'est uniquement dans ce qu'on dit les pays en voie de développement, ou le tiers-monde, ou les pays pauvres, que les quotas de femmes ont été instaurés. C'est le cas par exemple en Argentine ou en Inde, ou dans toutes les instances représentatives, du village jusqu'au Parlement fédéral, 30% de femmes sont nécessaires. L'Europe tarde donc à instaurer les quotas ou même de faire simplement une action affirmative ou positive pour que les femmes soient plus nombreuses à siéger. Pour le moment, seule la pression des mouvements féministes a réussi à modifier la donne en Europe du Nord et les partis politiques ont eu l'intelligence d'y répondre par l'ouverture. En tout cas en France, visiblement, là n'est pas ce n'est pas la situation. D'ailleurs, pour bien s'imprégner de la situation française, un livre vient de sortir sur le thème d'un siècle d'antiféminisme. C'est une revue sous la direction de Christine Barr avec une préface de l'historienne Michèle Barr. On comprend que la situation des femmes, si elle revient soi-disant à la mode, en tout cas, elle n'est absolument pas réglée. Ce livre tombe à pile dans l'actualité pour rappeler que l'histoire des femmes n'est pas linéaire, qu'elle a toujours connu des rechutes et des bons en avant. Un siècle d'antiféminisme, c'est donc un recueil de textes d'historiennes, ne va pas remonter le moral de celles qui croient que la voie de l'égalité est définitivement ouverte et que le progrès est irréversible. Tout d'abord, il faut préciser qu'antiféminisme ne signifie ni allergie aux féministes, ni misogynie, mais vraiment opposition à l'égalité des sexes. Et on retrouve, par exemple, Zola ou même Bertrand Blier, le cinéaste. Pour vous donner quelques aperçus, en 1925, le Parlement refuse le droit de vote et ce sont les radicaux de gauche qui s'y opposent le plus fermement car les femmes seraient accusées de voter à droite sous l'influence des curés. Un député explique par exemple que le féminisme, cette confusion des sexes qui tend non plus à l'équivalence des conditions, mais à leur identité. Quelle horreur! Et puis rappelons aussi que le Parti communiste en 1956, par la voix de Jeannette Vermeersch, s'est absolument opposé et milité contre la contraception qui répondrait aux vices des femmes de la bourgeoisie. La guerre est antiféministe, bien sûr, on renvoie les femmes à la maison et Vichy profite de la Seconde Guerre mondiale pour interdire aux femmes mariées de travailler. Chaque poussée d'émancipation provoque son déluge d'insultes. Par exemple, le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, publié en 1949, provoque un tollé scandalisé des intellectuels. En tout cas, la France peut se vanter d'être une exception, un antiféminisme au nom de l'universalisme qui supprimerait toutes les différences. Sur fond, comme d'habitude, d'anti-américanisme, car l'émancipation des femmes ne serait en fait que l'invasion de la culture yankee. En tout cas, on peut répéter ce que Virginia Woolf disait, l'histoire de l'opposition des hommes à l'émancipation des femmes est presque plus intéressante que l'histoire de cette émancipation elle-même. En France toujours, les femmes ont de la peine non seulement à entrer dans le monde politique, mais également à exercer des fonctions publiques élevées. Un rapport publié par le ministre de la fonction publique rappelle quelques vérités sur la réalité des chances d'accès des femmes aux plus hautes fonctions de l'État. Selon ce document, les femmes sont majoritaires dans la fonction publique, plus de 57%, mais elles ne sont que 10% aux échelons les plus élevés. À l'évidence, il y a problème. La haute fonction publique apparaît de fait et non de droit comme réservée aux hommes, indique ce rapport. Les grands corps de l'État, Conseil d'État, Cour des comptes, Inspection générale des finances, ne comptent que 12% de femmes. Au final, sur l'ensemble des services ministériels, seuls 19% de postes d'encadrement d'administration centrale sont occupés par des femmes. Le constat est à peine plus brillant dans la fonction publique et dans les hôpitaux. Les femmes seraient moins douées peut-être que leurs collègues masculins, pas du tout. Les résultats globaux que les femmes obtiennent au concours de la fonction publique sont excellents. Elles sont plus nombreuses que les hommes à être reçues au concours de catégorie A et B. Le problème, c'est qu'elles sont beaucoup moins nombreuses dans les grandes écoles, ENA, Polytechnique, Mine, etc., qui sont les réservoirs des fameux cerveaux d'État en France. Mais en fait, c'est que Les candidates dans l'ensemble sélectionné sont beaucoup plus durement sélectionnés que les candidats masculins, écrit le rapport. Cette tendance vaut aussi bien pour les épreuves d'admissibilité que pour les épreuves d'oral. D'où une série de propositions. Par exemple, féminiser les jurys de concours, améliorer l'information et les conditions de vie des femmes, réorganiser le temps de travail et réécrire le statut de la fonction publique. En France toujours, un procès pour une excision aboutit à une lourde peine pour l'exciseuse. C'est pour la première fois une femme excisée qui porte plainte. C'est Maria Tou, jeune femme de 24 ans, malienne, étudiante en droit, née en France et excisée en France, qui a porté plainte à sa majorité contre la matrone qui l'a mutilée quand elle avait 8 ans et contre sa famille. Ce procès a été assez extraordinaire, extraordinaire parce que pour une fois, les femmes, les jeunes filles excisées sont venues parler, elles sont venues témoigner contre cette exciseuse et les 27 parents qui ont comparu pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation sur mineurs de moins de 15 ans. Avec d'autres femmes, elles ont témoigné. Elle raconte par exemple « J'ai le souvenir d'un plastique mouillé par terre et moi les jambes écartées. Voyez-vous, une opération, ça se fait dans un bloc opératoire. Moi, mon excision, ça s'est fait de manière barbare et personne ne nous a jamais rien dit. J'ai compris qu'on m'avait retiré le clitoris en lisant les journaux. Ils savaient pertinemment que c'était interdit, sinon ils ne l'auraient pas fait à l'aube, dans le secret, en nous interdisant d'en parler. » Ce premier procès, donc assez historique, puisque pour une première fois, c'est les femmes elles-mêmes qui dénoncent ces pratiques, a donc abouti à une condamnation sévère, puisque l'exciseuse a été condamnée à 8 ans de prison, verdict le plus sévère jamais prononcé dans ce genre d'affaires. Une seule de ses co-accusées va l'accompagner en détention, c'est la mère de la jeune femme, condamnée à 2 ans de prison. Pour les autres mères et les 3 pères, les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocat général des années avec sursis. Après 15 années de tâtonnement judiciaire en l'absence de loi spécifique condamnant cette mutilation rituelle du clitoris, ce procès marque donc un tournant légitimant les associations de lutte contre l'excision et la stratégie judiciaire de criminalisation de cette mutilation. Maria Tou, âgée aujourd'hui de 24 ans, est la première et à cette date la seule victime à s'être révoltée en France. Hormis sa sœur, Maïmouna, les jeunes filles excisées qui sont venues témoigner sous les yeux de leur mère accusée ne se sont pas montrées solidaires. Cette problématique de l'excision fait également rebond en Afrique elle-même où le Sénégal compte aujourd'hui interdire l'excision. Une loi qui reste adoptée par le Parlement prévoit 5 ans de prison pour ceux et celles qui passeraient outre. Ces décisions touchent plus de 700 000 femmes. Elle est l'aboutissement d'une campagne aussi énergique qu'intelligente menée depuis l'été par le ministère sénégalais de la Femme et de l'Enfant. En précurseur, ce ministère avait décidé d'intervenir auprès des exciseuses et de les amener à déposer leurs couteaux. Cet appel a été entendu tout d'abord dans un petit village de la région de Thiès. Là, tout le monde a pris parti contre l'excision. Les villageoises, les associations de femmes, les autorités religieuses, les notables locaux. Les exciseuses ont suivi, donnant l'exemple au reste du pays. Mais il reste des réfractaires. Encore tout récemment, 120 fillettes de 8 mois à 10 ans ont été excisées avec le même couteau par un forgeron au mépris de toute hygiène dans un village du sud-ouest. Tempête en Italie autour de la décision de la Cour de cassation italienne de ne pas reconnaître le viol d'une femme du fait qu'elle portait des jeans. Les juges, tous des hommes, ont estimé que des jeans ne pouvaient être retirés sans, je cite, la collaboration active de celles qui les portent. Les magistrats ont donc annulé la condamnation d'un moniteur d'auto-école âgé de 45 ans à 2 ans et 10 mois de prison pour le viol d'une de ses élèves âgée de 18 ans. La décision a soulevé une tempête de protestations, entre autres de la part des femmes députées qui, de droite comme de gauche, ont décidé de ne plus mettre que des jeans jusqu'à ce que cette décision soit revue. Le Labour anglais veut débusquer les derniers parasites sociaux, une mesure qui s'en prend aux catégories les plus vulnérables de la société, mères célibataires et handicapées. Toute la sécurité sociale sera donc revue pour ne moins donner d'argent ou en tout cas faire subir aux chefs de famille monoparentales et aux handicapés physiques et mentaux un interrogatoire avant de leur verser une aide financière quelconque. S'ils sont en âge de travailler, ils seront encouragés à trouver un emploi. En outre, les retraites des veuves et des divorcés ayant charge d'enfants seront revues. Ce projet, bien sûr, a soulevé de nombreuses protestations, surtout du fait que pour les handicapés comme pour les mères célibataires, travailler, d'accord, mais à quelles conditions et comment ? Est-ce que les employeurs vont faire jouer le jeu et engager des handicapés ? Est-ce que les transports publics vont aménager les transports ? Est-ce que les usines vont être agencées, les bureaux, pour recevoir ces infirmes ? Est-ce qu'il y aura plus de crèches pour les mères célibataires, pour qu'elles puissent aller travailler ? Un congrès à La Haye fait le point après les 5 ans de conférence du Caire sur la population tenue en 1994. Nafis Sadiq, la Pakistanaise qui est à la tête du Fonds des Nations Unies pour la population, a donc organisé ce congrès à La Haye où 1 500 ministres et hauts fonctionnaires des pays de l'ONU se sont réunis pour faire le point sur la situation des femmes et voir si certains pas ont été accomplis depuis la conférence du Caire. Pour Nafis Sadiq, oui, il y a eu d'énormes changements, les discussions qui ont été ouvertes dans le monde entier et presque tous les pays qui ont mis en place des plannings familiales et des programmes pour juguler les maladies sexuellement transmissibles. L'avortement reste toujours un point délicat, mais là aussi, les choses avancent. Et les obstacles rencontrés, c'est surtout le droit à la reproduction qui passe par l'autonomie des femmes et dans de nombreux pays, bien sûr, cette autonomie non seulement n'a pas avancé, mais a régressé. Et puis le problème, c'est surtout un problème financier, puisque un budget de 17 milliards par an était prévu jusqu'à l'an 2000. Or, seulement 10 milliards sont arrivés jusqu'à présent pour faire avancer ces programmes. En Espagne, un militant anti-avortement a mis le feu dans une clinique de Barcelone sans faire de victime. Pourtant, l'avortement n'est autorisé en Espagne qu'en cas de viol, de malformation du fœtus et pour des raisons de santé. L'association Provida, dont les militants se réunissent régulièrement devant la clinique, clame son innocence. Aux élections israéliennes, une femme se présente, Penina Rosenblum, qui annonce sa fracassante entrée en politique. Cet ancien mannequin, à la tête d'une société de lingerie et cosmétiques, entend mettre ses compétences de femme d'affaires et mère de famille au service d'Israël. Elle a fondé son parti qui prône la justice sociale et pourfend l'escroquerie. Objectif, conquérir un siège à la Knesset aux prochaines élections législatives. Aux Bermudes également, pour la première fois, l'archipel s'est doté d'un gouvernement qui représente sa majorité noire. Tout change, même dans les paradis fiscaux. La nouvelle première ministre est une femme, Jennifer Smith, qui va s'attaquer aux problèmes sociaux, tout en autorisant, bien sûr, les banques à continuer de faire leurs petites affaires. Ça va, Les mères bosniaques seules avec leurs enfants mineurs doivent pouvoir rester durablement en Suisse. Une pétition munie de quelque 13 000 signatures a été remise au Conseil fédéral. Les pétitionnaires demandent l'octroi d'un permis B humanitaire pour ces femmes souvent veuves ou divorcées qui séjournent depuis de nombreuses années en Suisse. Selon une étude, les hommes seraient aussi nombreux que les femmes à subir des violences conjugales. C'est ce que donne comme statistique le gouvernement britannique. Si on l'ignore, c'est que jusqu'à présent, les hommes ont de la peine à se plaindre. C'est d'ailleurs en train de changer puisqu'au cours des 12 derniers mois, les autorités britanniques ont enregistré une avalanche de plaintes masculines. Les principales victimes des femmes sont surtout des hommes malades ou handicapés qui ne peuvent pas rendre les coups. Il n'en reste pas moins que les violences infligées aux femmes sont généralement autrement plus graves que celles qu'elles ont fait subir aux hommes. Si graves que certaines en meurent. Chaque semaine en Grande-Bretagne, deux femmes sont assassinées par leur compagnon ou par l'homme qu'elles ont quitté. Et les annales judiciaires britanniques signalent que l'an dernier, dans ce genre d'affaires, une femme battue sur 10 est morte étouffée ou étranglée parce qu'elles avaient trop tardé à porter plainte. D'ailleurs, aux États-Unis, une même type d'enquête montre qu'une femme sur 5 est victime d'un viol ou d'une tentative de viol, avant 17 ans pour la moitié, et selon une enquête gouvernementale, près d'une femme sur 2 a été agressée physiquement au moins une fois dans sa vie, si l'on compte les gifles. En Suisse, procès exemplaire également, procès de trois gendarmes accusés de viol. Le viol a été reconnu, ils ont été reconnus coupables d'avoir violé cette jeune femme, l'amie de l'un d'entre eux, qui s'était cru du fait qu'il était peut-être policier, qu'il connaissait le passé de cette jeune femme, de pouvoir l'utiliser comme un objet. Leur dénégation, le fait qu'ils aient toujours clamé que la femme était consentante, n'ont pas convaincu le juré. Les trois gendarmes ont été condamnés à des prisons fermes, 5 ans pour l'instigateur, 3 ans pour son complice et le troisième agent, plus jeune, bénéficie d'un sursis. C'est une condamnation intéressante, en tout cas elle pose un problème de la formation des gendarmes qui, on le rappelle, reçoivent également les femmes violées qui viennent se plaindre. En Suisse, la recherche et le développement, le vent en poupe et les femmes renforcent leur présence. Elles sont toujours plus présentes dans la recherche puisque leur proportion est passée à 25% en 4 ans. Les femmes sont d'ailleurs de plus en plus diplômées. Les autres écoles suisses décernent de plus en plus de licences et de diplômes aux femmes, entre autres. Elles ont obtenu plus de 41% des licences et diplômes et 30% des doctorats en 97, alors qu'elles ne décrochaient que 33% des licences en 88. C'est dire le bond immense qu'elles ont fait en 10 ans. Et même dans les bastions dits masculins, comme les sciences exactes ou techniques, il y a de plus en plus de femmes, 23%. Et 19% en sciences techniques, elle reste très majoritaire dans des branches comme la médecine vétérinaire ou la pharmacie. Ça y est, c'est reparti. Un nouveau référendum contre le projet d'assurance maternité a été lancé. L'assurance maternité que le peuple décide, c'est donc le nom de ce comité. Il a été fondé à Berne avec l'appui très fort de l'Union suisse des arts et des métiers et de l'association patronale. Et d'autres soutiens des femmes, par exemple, on peut citer Margarite Floriot, une libérale vaudoise, et la toujours présente et toujours aussi sexiste, ancienne conseillère nationale Suzette Sandeau. Le référendum a reçu le soutien de l'Union patronale suisse et de leur parti, l'Union démocratique du centre. Les patrons estiment que la Suisse ne peut s'offrir aujourd'hui le luxe d'une assurance étendue à toutes les mères, y compris à celles n'exerçant pas d'activité lucrative. Il faudrait quand même leur redire que cette assurance maternité est inscrite dans la Constitution depuis plus d'un demi-siècle. Pour terminer, quelques cochons, distribution des palmes des cochons. Le premier cochon a été donné par les Néo-Zélandaises à l'ambassadeur de France. Elles n'ont absolument pas apprécié ses propos. Avant de quitter ses fonctions, au terme d'un mandat de 4 ans, Jacques Leblanc, qui se pose en arbitre des élégances, a critiqué dans une interview accordée au journal néo-zélandais la façon dont les femmes s'habillent. Elles sont ravissantes au bureau, mais après, elles se changent et elles arborent une ville des tenues soldatesques qui leur donnent l'air d'hommes, a-t-il déploré. Ces critiques ont courroucé les féministes qui sont descendues dans la rue pour conspuer l'ambassadeur sexiste. Ce qui a entraîné la riposte de l'ambassadeur italien, Antonio Provenzano, lui, c'est les chaussures des Néo-Zélandaises qu'il n'aime pas trop. Elles sont trop sport à son goût. Et puis un autre cochon, celui-là, c'est les féministes canadiennes qui se sont pris au fait d'un livre qui s'appelle 500 blagues sur les blondes. C'est donc 500 blagues sur les femmes, en fait. Ça a mis les féministes canadiennes hors d'elles, pas tellement par le contenu et par cette publication, on est habitué à pire, mais c'est parce que ce plaisant ouvrage a été subventionné par le ministère du patrimoine, lequel considère que l'humour, même un brin misogyne, pour ne pas dire totalement misogyne, fait partie des traditions à sauvegarder. Pour vous donner un exemple du type de blague qu'on peut rencontrer, comment est-ce qu'on sait qu'une blonde a travaillé sur son ordinateur parce qu'il y a du Tippex sur l'écran? Et puis, quelques rendez-vous pour terminer. Parlons du 8 mars. Et oui, nous sommes en février, mais mars va bientôt pointer. Le 8 mars, c'est la Journée internationale des femmes. Et à Genève, le groupe Cinéma prépare son dorénavant régulier festival de films de femmes. Ça commence le lundi 1er mars jusqu'au samedi 6 mars. 6 films qu'on pourra voir, 6 films qui d'ailleurs tournent en Suisse, puisque ce mini-festival sera montré un peu partout en Suisse, dans les grandes villes. Donc vous pouvez également le voir à Fribourg, à Brigue, à Bienne, à Saint-Gall, à Zurich, à Soleure, à Berne, etc. etc. On parlera plus longuement de ce festival. J'aimerais encore vous parler d'un week-end d'écriture créativité sur le thème de la source qui est organisé par F Information. Vous pouvez vous informer en téléphonant directement à F Information et puis vous rappeler que les pirates des locaux commerciaux sont toujours à la rue Guillaume Tell et qu'ils appellent comme chaque jeudi à un rassemblement qui se tiendra donc ce jeudi au Carrefour de Rives à partir de 18h30. Et sinon, vous pouvez toujours apporter votre soutien actif aux squatters des locaux commerciaux qui occupent des bureaux en voie de rénovation et des réaffectations pour devenir des logements à la rue Guillaume Tell. C'était La Pleine Lune sur 93.8 MHz, Ondes Femmes, Radio Zone.
Comme une fugue s'enfuit, comme une pierre polie, une plume se marie sur une feuille. fausse nuit. Insomnie. Pas cette plaie, y a trop de dégâts à cet endroit. Cendrier, petite fumée, univers calligraphié, terros fatigué. Derrière les cette plaie, les mots ne sont pas morts, ils saignent encore.